Bonsoir. Le gouverneur du Nord Kivu a annoncé hier dimanche dans un point de presse à Goma qu'une nouvelle attaque contre la RDC est en préparation à partir de l'Ouganda. Selon Julien Paluku, l'ex-colonel Sultani Makenga du M23 avec d'autres officiers de cette rébellion viennent de s'échapper pour la deuxième fois de leur résidence surveillée en Ouganda en direction de Bunagana, localité frontalière de la RDC située à 70 km au nord-est de Goma. Quelle analyse faire de cette déclaration? Nous en parlons avec Julien Paluku, il est gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur Julien Paluku.
Oui, bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi, à qui j'adresse tous mes vœux de nouvelles, comme c'est la première que j'interviens, c'est cette radio de la paix.
Merci. Professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition, élu de Béni au Nord Kivu et président du parti politique DCFN. Bonsoir, professeur Arsène Mouaka.
Bonsoir, Guy Martin.
Et lui, il va nous rejoindre dans peu de temps. C'est Boniface Moussavouli, il est analyste politique et l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les génocides des Congolais ». Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouverneur du Nord Kivu annonce qu'une nouvelle attaque contre la RDC est en préparation à partir de l'Ouganda. Julien Paluku l'a dit au cours d'un point de presse qu'il a tenu ce dimanche en sa résidence à Goma. Selon lui, l'ex-colonel Sultani Makenga du M23, avec d'autres officiers de cette rébellion, viennent de s'échapper pour la deuxième fois de leur résidence surveillée en Ouganda, en direction de Bunagana, localité frontalière de la RDC, située à 70 km au nord-est de Goma. D'après toujours Julien Paluku, une trentaine parmi ces assaillants ont été appréhendés à Kisoro, village frontalier du côté ougandais, muni d'armes. On écoute le gouverneur du Nord Kivu donner cette alerte à la presse. Ses propos sont recueillis par Freddy Bikumbi.
Oui, effectivement, je voudrais devant toute l'opinion nationale et internationale confirmer des sources ougandaises que Makenga et tous les éléments ex-M23 ont fui des milieux où ils étaient hébergés en destination de la RDC pour vouloir attaquer encore une fois la République démocratique du Congo, comme pour confirmer effectivement que cette entreprise meurtrière a été encore une fois montée à partir de l'Ouganda. C'est ici l'occasion donc de dénoncer cela, et même de dénoncer les autorités ougandaises qui laissent faire effectivement ce genre d'activité, parce que vous vous rappelez, le 11 novembre 2016, j'avais encore fait la même sonnette d'alarme pour dire que Makenga avait quitté effectivement son lieu de résidence et il avait été intercepté pour taire cette aventure. Cette fois-ci, c'est confirmé qu'il y a plus de 30 personnes armées qui ont quitté l'Ouganda à destination de la RDC, mais qui voudraient bien rassembler tous les autres mécontents du M23. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette alerte ici, pour qu'ensemble nous puissions joindre nos efforts pour barrer la route à ces aventures qui risquent de nous déstabiliser alors que nous sommes engagés actuellement dans un processus électoral.
En rapport avec cette nouvelle incursion sur le sol congolais des ex-combattants du M23, Lambert Mende annonce que le gouvernement congolais s'est mis sur deux fronts pour juguler cette situation. C'est d'abord le front militaire. D'après les ministres de la communication, le gouvernement ne permettra plus que les territoires congolais soient une fois de plus un foyer d'intention. Mais aussi le front diplomatique. À ce sujet, le gouvernement congolais attend des explications du gouvernement ougandais, d'autant plus que ces ex-combattants étaient cantonnés dans un camp de réfugiés sur le sol ougandais. Lambert Mende est joint au téléphone par Jacques-Yves Molima.
Dès qu'ils ont franchi la ligne frontalière au niveau des Chacha, ils ont été harponnés par les forces de défense et de sécurité. Certains ont déjà été arrêtés, d'autres continuent à résister. L'armée est en train de s'occuper d'eux comme il se doit. L'ordre a été donné de ne leur laisser aucune chance d'insécuriser nos citoyens et les biens de la République démocratique du Congo. Diplomatiquement, nous sommes occupés à actionner le mécanisme de vérification de la CIRGL, parce que Makenga, M. Mboneza, qui commande ses troupes, étaient enregistrés comme réfugiés en Ouganda. Et nous posons la question à nos voisins ougandais, comment il se fait qu'ils se trouvent en armes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, nous n'avons pas encore des réponses du gouvernement ougandais, et donc cela se passe essentiellement sur le terrain.
Et face à cette menace, le chargé des communications de la 34e région militaire, Major Djike Kaiko, affirme que l'armée congolaise est prête à repousser tout celui qui veut semer la terreur en RDC à partir du Nord Kivu. Réagissant à ces allégations, le ministre d'État des Relations internationales de l'Ouganda a, dans une déclaration ce lundi 16 janvier, démenti une quelconque incursion des combattants M23 dans la localité d'Ishasha au Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Pour M. Oriem, le gouvernement congolais veut trouver des prétextes pour détourner l'attention de l'opinion sur la crise politique actuelle en RDC. Monsieur Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Vous alertez l'opinion sur une imminente attaque des combattants M23 contre la RDC à partir du territoire ougandais. Monsieur le gouverneur, quels sont les éléments sur lesquels vous fondez vos déclarations? Est-ce que vous avez un document écrit ou un élément sonore contenant par exemple une déclaration du porte-étendard de ces mouvements? Ou détenez-vous quelques effets militaires de ces combattants?
Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est une question qui mérite une attention particulière. D'abord, je ne reviens pas sur mes déclarations parce que c'est des affirmations que je réaffirme dans cette émission. Tout le monde sait, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, que lorsque les FARDC ont signé la mort du M23, c'était en novembre 2013, curieusement, on a assisté à la CIRGL en train de vouloir ressusciter les M23 par la signature de la déclaration de Nairobi. C'est cela, à mon sens, qui a redonné encore une fois au M23 l'essence de vivre. Parce que dans toutes les guerres du monde, lorsque une force ennemie capitule, je n'ai jamais vu là où on la récupère, où on la ressuscite par une autre déclaration, une autre signature. Donc, c'est cela qui a donné au M23 cette survie, comme je viens de le dire, et qui lui permet effectivement de sillonner entre le Rwanda, l'Ouganda facilement. Makenga n'est pas dans un camp, il est dans un appartement luxueux, même si tous les autres sont dans le camp de Bihanga. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas l'environnement de la région des Grands Lacs. À partir du moment où on a donné au M23 l'espoir de pouvoir revenir au Congo, on lui a laissé le libre cours de se mouvoir sur l'espace ougandais. C'est ce qui a fait que le camp de Bihanga s'est vidé de ses occupants pour une destination vers la RDC. Et lorsque le ministre ougandais est en train de nier le fait qu'il n'y a pas eu ce mauvais la RDC, je voudrais que le même ministre nous dise si la police ougandaise n'a pas arrêté les éléments du M23 qui sortent de l'autre côté de l'Ouganda. Donc ça, c'est le premier élément que nous détenons. Maintenant, au niveau interne à Goma, nous avons arrêté depuis le début de cette année 2017 au moins 23 armes, d'abord dans la ville de Goma, à la barrière là où quand vous allez dans les Massissi, et puis dans le fin fond de Massissi, l'ancien quartier général de Laurent Kunda. Tous ces gens que nous avons arrêtés avaient des armes en destination de Bunagana pour aller se joindre effectivement au groupe qui venait de l'Ouganda et devoir commencer effectivement l'offensive. Donc nous détenons tous ces éléments avec nous, les hommes et les munitions qui nous ont confirmé effectivement qu'ils allaient à Bunagana avec ces armes et qu'ils étaient en connexion avec les troupes de Makenga pour commencer une nouvelle guerre. Voilà pourquoi j'ai convoqué effectivement la presse pour que je dénonce cela, pour que je fasse une alerte de manière à ce que tous nous puissions joindre nos efforts, comme je l'ai dit, et je suis content que le ministre ougandais ait tout de suite réagi. Parce que si la lettre n'avait pas été faite, le ministre ougandais n'aurait pas réagi comme ça n'a été le cas aujourd'hui.
Oui, monsieur le gouverneur, dans votre déclaration, vous vous référez aux sources ougandaises. Est-ce que vous avez vérifié les informations que vous détenez?
Les informations sont vérifiées. D'abord à partir du camp de Bihanga, qui s'est vidé de ses ex-combattants M23, mais également la résidence de Makenga. Nous avons des services à Ouganda, nous avons toute une ambassade en Ouganda, nous avons le contrôle plus ou moins de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. J'ai dit dans ma conférence de presse que le fait d'avoir connu beaucoup de guerres dans cette région, ça a développé en nous un certain nombre de réflexes qui nous permettent évidemment de comprendre ce qui se passe sous d'autres cieux. Et donc ce qui se passe dans les pays voisins ne peut pas être moins connu par nous ici, surtout que nous savons qu'il y a une menace permanente qui pèse sur nous. Donc nous avons des informations claires et nettes, vérifiées de ces mouvements des troupes de Makenga vers la RDC. Nous avons des informations vraies sur la voiture qui a été arrêtée à Kisoro, c'est de l'autre côté de Bounagana, avec cette arme AK-47 et le numéro de la plaque de la voiture. Nous l'avons même publié sur notre compte Twitter. Donc, ce n'est pas des rumeurs ou des hallucinations ou des élucubrations conceptuelles qu'on est en train de faire. C'est donc des choses vérifiées dont nous disposons, et c'est la raison pour laquelle le ministre de la Défense a saisi les mécanismes conjoints de vérification pour se déployer sur le terrain de manière à vérifier tous ces éléments-là pour qu'on ne dise pas que la RDC s'est basée sur des rumeurs.
Oui, monsieur le gouverneur, selon les éléments que vous détenez, peut-on parler d'une simple intention de ces ex-combattants à vouloir attaquer la RDC, ou on peut parler d'une attaque qui a eu lieu ou d'une incursion?
Dans la région des Grands Lacs, ce sont les intentions qui précèdent les actions. Donc on ne peut pas commencer à chercher la différence entre intention, action, rébellion ou quoi. Tout commence par être conçu quelque part avant de se matérialiser. Donc pour nous, nous avons considéré que ce qui s'est passé en Ouganda, ce qui s'est passé à la frontière ougando-congolaise, ce qui s'est passé à l'intérieur du territoire congolais, les armes arrêtées à Goma, les armes arrêtées à Massissi, la connexion que nous avons notée avec les troupes de Makenga, voilà autant d'éléments qui nous rassurent effectivement qu'il y avait quelque chose en préparation et les troupes étaient déjà en mouvement du côté de Ishasha, du côté de Nyamilima, à la frontière avec Butogota, du côté de Bounagana. Et c'est cette alerte générale, effectivement, qui est en train de stopper cette aventure. D'ailleurs, je me demande si la police ougandaise qui a arrêté ses armes à Bounagana ne l'a pas fait par inadvertance, parce que peut-être elle n'était pas informée de cette situation.
Monsieur
là,
Madame,
il faudra que le mécanisme conjoint de vérification aille vérifier cela.
Et donc, cela veut dire que votre annonce ne constitue nullement un prétexte pour détourner l'attention de l'opinion sur la crise politique qui se vit actuellement en RDC, comme l'a dit le ministre ougandais?
On détournerait l'attention de quelle opinion politique en RDC alors que le pays est en train d'être agressé. Des armes sont arrêtées à Goma. Les détenteurs d'armes se disent qu'ils allaient à Bounagana pour se joindre à ceux qui sont en Ouganda. Je pense qu'on veut minimiser ça parce qu'on trouve effectivement que ça a une ampleur. Surtout que nous sommes signataires tous de l'accord cadre où nous avons signé. Nous avons eu des engagements comme État.
Merci.
On ne peut pas servir de base arrière pour attaquer un autre État. C'est
Merci.
Simplement ça qu'on voudrait éviter.
Professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition, élu de Beni au Nord-Kivu et président du parti politique DCFN, comment vous réagissez à cette déclaration du gouverneur du Nord-Kivu au sujet d'une attaque imminente du M23 contre la RDC?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord exprimer une fois de plus toute ma compassion à la population du Nord-Kivu et dire que malheureusement, l'histoire semble se répéter puisque le contexte qui précède de telles informations est toujours le même. Notez qu'actuellement, le ZDF sont en action dans le territoire de Beni et qu'au dernier trimestre de l'année 2016, l'Ouganda a semblé dénoncer, que le Congo était en train de fomenter ou de former des terroristes dans la vallée de la Semliki. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est de dire qu'il y a des étrangers en armes, comme les EDF, il y a aussi les FDLR. On est dans des opérations militaires socoladées, des opérations dont le bilan n'est pas régulièrement établi. Et donc, c'est des opérations infinies. C'est des étrangers qui sont sur le sol congolais, qui nous tuent, qui nous égorgent et qui ne sont pas évacués. Troisième élément, c'est le dossier des réfugiés soudanais. Et donc, on a 631 ex-rebelles de Riek Machar qui se trouvent autour de la ville de Goma et malheureusement, qui ne sont pas évacués. Je me rappelle que le ministre de la Défense avait donné un ultimatum d'une ou deux semaines et qui est resté sans issue. Quatrième élément, c'est un élément qui semble être loin, mais c'est des éléments qui se ressemblent. C'est la recrudescence des tueries, des Mbororo, sur les populations congolaises dans le Haut-Ouélé et même dans le Bas-Ouélé. C'est des éléments qui font la loi depuis une dizaine d'années, qui sont armés sur le sol congolais, qui y restent illégalement et qui restent à défier de non seulement les populations congolaises et même l'armée qui a pour mission de pouvoir veiller sur de telles situations. Enfin, un élément qui n'a rien à voir avec l'étranger, c'est le retour des démobilisés qui viennent des Kamina, qui viennent de Kitona. Dans les statistiques, on nous disait qu'il y avait à peu près 4000 personnes qui venaient de Nyatura, qui venaient d'Espelès, je sais pas, qui venaient de plusieurs mouvements rebelles dans la province. Et donc, c'est dire qu'il y a un cocktail mortel qui pratiquement couve sur cette province. Et si jamais il y a un mouvement du M23, comme dit le gouverneur, je pense que c'est mauvais pour la République. Et donc, ce ne serait pas un truc à négliger, mais il y a comme ça un mélange d'éléments qui nous dit que nous allons mal. Et encore que il y a des mouvements tels que les FRPI en Ituri, il y a des tueries au Nord Katanga, et même des régions qui n'avaient pas l'habitude de nous fournir des informations de violence comme le Kasaï, et même l'Équateur autour de Lissala, nous fournissent des mauvaises informations. Mais moi, ce qui qui attire mon attention, c'est de dire pourquoi tout ça quand on est dans une crise électorale. Pourquoi tout ça seulement quand on veut constituer, je sais pas, un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ça ne ressemble pas à des événements qu'on a vécu après les élections de 2011? Est-ce que ça ne ressemble pas à des situations qu'on a vécu après les élections de 2006? Et donc pourquoi à chaque fois l'opinion nationale est attentionnée sur une crise au niveau national, à chaque fois il y a quelque chose qui nous vient, soit du Rwanda, soit de l'Ouganda. Et donc c'est des interrogations.
Et à votre avis, vous avez eu à faire des recherches, n'est-ce pas, par rapport à cette question dans cette sous-région. Et à votre avis, ça peut être lié à quoi? Pourquoi ces événements se produiraient chaque fois, n'est-ce pas, à la veille des grands événements?
Je refuse de répondre, mais je continue à m'interroger pour dire pourquoi seulement l'instabilité politique est liée à des moments de changement politique. Pourquoi? Je continue à m'interroger. Je préfère ne pas répondre puisque cela me demanderait de mener des recherches. Mais je voulais savoir seulement si cette coïncidence est fortuite. Donc c'est cela mon interrogation. Je doute que ça ne soit pas fortuit. C'est mon hypothèse de départ.
Et les éléments du M23 ont le statut des réfugiés sur le sol ougandais. Et s'ils reprennent les armes aujourd'hui, cela voudrait dire que l'Ouganda a cautionné, même encouragé, n'est-ce pas, ces comportements. Et à votre avis, quel intérêt l'Ouganda pourrait avoir aujourd'hui à déstabiliser la RDC?
Vous savez, les pays qui nous entourent, surtout les petits pays qui nous entourent, se nourrissent de notre faiblesse. C'est notre faiblesse qui fait leur grandeur. Cette grandeur est à la fois militaire et économique. Le plus souvent, quand on réfléchit sur cette région, on réfléchit à terme des minerais, à terme d'exploitation illicite des ressources naturelles, mais on oublie que ces petits pays nous prennent pour un marché des aliments, la nourriture. À Goma, les gens mangent le fruit. Les gens mangent la pomme de terre, les gens mangent, boivent du jus, de l'eau, et ainsi de suite, qui vient de pays voisins qui n'avaient pas la tradition de nous nourrir, puisque Masisi, Rutshuru nourrissait.
Donc tout est marché pour ces pays.
Exactement, l'Ouganda c'est la même chose, et donc ils ont intérêt à nous garder faibles pour que nous puissions continuer à être un marché pour eux.
Monsieur, professeur Arsène Mouaka, vous êtes un élu du Nord Kivu et vous venez de cette province. Avez-vous constaté des indices qui pouvaient faire penser à une éventuelle attaque du M23 à ce moment-ci?
Bon, c'est depuis très longtemps que les éléments du M23 sont en divagation, entre guillemets, dans la région, puisque on est allé signer avec eux des papiers. On a eu à amnistier certains d'entre eux. Mais il n'y a pas de mécanisme correct pour pouvoir ramener ces gens. J'ai vu certains éléments arrêtés à Bounia, alors que logiquement ils rentraient dans la catégorie de ceux qui étaient amnistiés et qui voulaient rentrer soit chez eux, et ainsi de suite. Donc c'est dire qu'il n'y a pas de sérieux dans la gestion de ce dossier. Autant à vouloir dribbler et on n'arrive pas à dribbler correctement. J'aurais souhaité que le gouvernement prenne le taureau par les cornes pour résoudre définitivement de tels problèmes.
Merci. Boniface Moussavouli, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, je rappelle que vous êtes...
vos auditeurs aussi.
Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les génocides des Congolais ». Et comment vous analysez cette dénonciation du gouverneur du Nord Kivu?
Bon, je trouve qu'il est dans son rôle, hein, il est dans son rôle de dénoncer un péril qui se présente à la frontière de sa province et du pays. Mais je dirais que cette situation d'événement du 2023 était une situation tout à fait prévisible. Tout le monde sait que les membres du 2023 devaient nécessairement faire quelque chose dans le sens d'un retour forcé au Congo pour un ensemble de raisons. La première est d'ordre historique. Le professeur Hassan Mwakala l'a bien rappelé. D'une façon rapide, mais je suis exactement d'accord avec lui. À chaque fois que le Congo se retrouve en train de se doter de nouvelles institutions et d'essayer de partir de l'avant, il y a toujours des troubles qui viennent du Rwanda et de l'Ouganda pour remettre le pays la tête sous l'eau. Il faut remarquer que c'est au moment où pratiquement toute la classe politique de la majorité, de l'opposition, de toutes les oppositions, se met d'accord sur une dynamique nationale pour aller vers les élections, que cette histoire éclate. C'était comme ça également en 2004, lorsque le CNDP de Laurent Kunda eut l'intention d'attaquer la ville de Bukavu. En 2004, c'était juste un an après les accords de Saint-Cité. En 2007, l'attaque de Mouchak et le massacre des militaires, c'était un an après les élections de 2006. Et en 2012, c'était juste un an, hein, le M23 qui lance son aventure en 2012, c'était un an après les élections de 2011. Donc, nous sommes dans une situation où chaque fois que le Congo veut partir du bon pied, chaque fois que le Congo se dote de nouvelles institutions et essaie d'engager une dynamique vers l'avenir, il y a toujours des troubles qui viennent du Rwanda et de l'Ouganda
pour
nous remettre à nouveau à tourner en rond.
Monsieur Moussavouli, vous dites que...
La deuxième chose, c'est que...
Oui, vous dites que, n'est-ce pas, cette annonce ou une éventuelle attaque du M23 est une situation prévisible et que ce mouvement devait faire quelque chose pour un retour en force en RDC. Et à votre avis, que représente encore aujourd'hui le M23 après sa défaite de novembre 2013?
Moi, je n'ai jamais limité le M23 aux combattants, aux quelques combattants que nous avons vus hein, dans la télévision. Pour découvrir ce qu'était le M23, il faut lire les rapports des experts de l'ONU. Le M23, c'était une organisation militaire nationale, hein, engageant deux pays, deux États. C'est cette dimension-là. Le M23, c'était pratiquement une partie des armées du Rwanda et de l'Ouganda. Mais pour des raisons diplomatiques, on ne veut pas reconnaître cette dimension-là. Et donc, qu'il s'agisse de 30 individus ou de 100, mais à partir du moment où ils ont des États derrière eux, ils deviennent un danger mortel. Il ne s'agit pas de petits aventuriers qui sillonnent dans les brousses du Nord Kivu. Il s'agit des gens qui sont en mission pour leurs États.
Et vous
ne
pouvez
pas croire qu'en 20 ans, chaque fois qu'un pays veut se relever, il est déstabilisé par une trentaine, une centaine d'individus.
Et vous pensez que...
C'est une stratégie régionale. C'est une stratégie régionale qui vise à mettre le Congo par terre de façon permanente.
Oui, il s'agit d'une stratégie régionale. Vous pensez que ces mouvements pourraient, n'est-ce pas, se lancer dans une entreprise de guerre à ce moment-ci et espérer qu'il peut atteindre ses objectifs au moment où une certaine cohésion, n'est-ce pas, nationale est en train de se constituer en RDC?
Oui, je pense que même en dehors du M23, Nous savons tous, nous qui suivons la situation politique et sécuritaire dans le Nord Kivu, nous savons qu'il y a énormément de bruit de bottes. Il y a énormément d'initiatives militaires qui sont en train de se prendre dans cette région. C'est une région qui est vraiment en péril. Hein. Si un grave conflit militaire éclate dans cette région, ce ne serait pas quelque chose d'étonnant. Il y a d'abord des milices qui sont en train d'apparaître, on ne sait d'où. Il y a des mouvements au niveau des frontières. Il y a des haines qui se creusent entre les communautés. C'est donc une région, c'est donc une province qui est vraiment au bord de quelque chose de très grave.
Monsieur Moussabouli, la RDC dénonce la passivité de l'Ouganda par rapport à ces problèmes et l'Ouganda rejette les allégations de la RDC. Comment vous analysez cette situation?
Alors, dans cette situation, ce n'est pas très agréable de le dire, mais il faut parfois qu'on se dise des vérités, nous, Congolais. Les responsabilités sont souvent partagées, vous voyez. Les membres du M23, dans toute situation de guerre où il y a une armée qui l'emporte, il y a une force militaire qui l'emporte sur l'autre, la force battue, on la soumet. On arrête ses membres, on les traduit en justice. Qu'est-ce qui s'est passé fin 2013? L'armée congolaise prend le dessus et on se retrouve avec des politiciens qui vont négocier à Kampala et à Nairobi. On remet un mouvement battu, on le remet à selle. Naturellement, ces gens, les membres du 23, ont la garantie qu'ils doivent rentrer au Congo et qu'ils doivent rentrer en tant que force, soit politique, soit militaire, organisée, en groupe. On a commis une grave erreur en allant signer les accords de Nairobi. Ce n'est pas seulement ces accords-là. Ensuite, on est parti voter une loi d'amnistie. Et cette loi a été promulguée. Donc, cette erreur-là, elle est là. En août dernier, le président Kabila est allé en Ouganda et il a déclaré, face caméra, qu'il n'existe plus de difficultés au retour des membres du 23. Il l'a dit à côté du président Museveni. Donc, nous commettons des erreurs, nous donnons les bâtons pour nous faire battre quelque part.
Merci, monsieur le gouverneur Julien Paluku. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lumbashi.
Nous sommes l'île de Lumbashi. Dans cette histoire, il y a à boire et à manger, et au finish révoltant. C'est quasiment impossible que cette question soit traitée comme celle de la gestion des immondices à la place publique, avec une grande légèreté, mais il ne s'agit pas d'amateurisme, car ils sont conscients de ce qu'ils font. Créer une diversion pour ne pas mettre en exécution le fameux compromis, et nous parler d'énième dialogue. Quid de l'application de l'accord du Nairobi? Au-delà de ça, quels sont nos services dits intelligents? La RDC n'a pas une ambassade en Ouganda? Si oui, c'est au travers cette dernière que l'information pourrait être donnée. Hélas, on a assisté à la cacophonie où le gouverneur Paluku, le ministre Mende, confirme l'incursion de M23 et à son tour le ministre de la Défense de se référer au mécanisme conjoint pour dire que nos services secrets se limitent à la répression du paisible citoyen qui réclame leurs droits. Enfin, ceci se résume que nos frontières sont poreuses où le peuple congolais vit jour et nuit dans l'insécurité totale.
Monsieur le gouverneur, Julien Paluku.
Oui, en fait, je voudrais saluer l'auditeur qui pose la question. Mais je crois que l'auditeur devra savoir que les grands lacs sont prisonniers de son histoire. Malheureusement, l'homme politique dans la région du Grand Lac n'est pas encore au stade de dominer cette histoire. L'histoire continue à nous dominer tous et c'est très malheureux. De deux, je pense que pour dénoncer une situation, pour montrer à la face du monde un degré du patriotisme, cela ne nécessite pas qu'on soit gouverneur, qu'on soit ministre ou qu'on soit député et tel. Le rôle que nous jouons, c'est de pouvoir sauver la République et sauver ce qui peut l'être lorsque nous trouvons que la République est en danger. Donc il n'y a pas eu cacophonie par rapport à notre déclaration. Nous avons, comme M. Boniface l'a dit, nous avons rempli nos obligations comme gouverneur avec les responsabilités de devoir défendre cette République, d'alerter l'opinion par rapport au danger qui guette la République. Parce que comme d'autres experts l'ont dit ici, eh bien, il ne pouvait pas
en 2013, être compris qu'une force qui avait été battue militairement soit encore sur une table avec la partie gouvernementale. Je l'ai dénoncé plusieurs fois, mais je comprends que c'est parce que l'histoire de, les gars là qui ont une histoire, les États de la CIRGL ont cherché à montrer qu'il fallait toujours parler à ces gens pour que les 1700 personnes, même si moi j'avais nié ces chiffres-là, qui se retrouvaient en Ouganda, puissent rentrer paisiblement. Donc moi je pense qu'au stade actuel, ce que l'opinion devra savoir, c'est qu'au moins au niveau de la RDC, au niveau de la province, nous détenons les éléments, à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, les armes que nous avons arrêtées à Goma, les armes arrêtées à Masisi, les armes maintenant arrêtées du côté de l'Ouganda à Kisoro, et le mouvement du camp des déplacés à l'intérieur de l'Ouganda vers notre frontière, voilà, comme le professeur Makala dit, un cocktail d'éléments qui nourrissent notre conviction que nous avons l'obligation, en tant que citoyens congolais, de devoir défendre la République et ne pas nous encastrer dans des querelles entre nous pour savoir qui a dit vrai, qui n'a pas dit vrai, alors que la menace est devant nous.
Oui, monsieur le gouverneur, vous semblez, n'est-ce pas, regretter le fait que le gouvernement, juste après la défaite du M23, le gouvernement se soit retrouvé, n'est-ce pas, autour d'une table avec ces mouvements rebelles et n'est-ce pas, signé des déclarations avec ces mouvements rebelles. Vous avez suivi le professeur Mwaka qui a parlé des manques de sérieux, n'est-ce pas, dans la gestion de cette question. Donc on peut dire aujourd'hui que le gouvernement congolais gère avec une certaine légèreté cette question du M23, tout simplement parce que elle a été amenée à signer des déclarations avec ces mouvements. On lui a forcé la main alors qu'elle n'était pas prête, n'est-ce pas, à signer ces documents.
Ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit plusieurs fois, même à l'occasion de la chute du M23, parce que moi je suis arrivé à Tchanzu, nous avons eu plus de 300 tonnes d'armement que nous avons récupéré à Tchanzu, des munitions, du matériel militaire que nous n'avions pas dans notre stock d'armement au niveau de la région militaire. Ce qui notait tout de suite que ces munitions, cet armement ne provenait pas effectivement de la RDC, ça provenait soit de l'Ouganda, soit du Rwanda. Et lorsque le M23 a été défait, effectivement, j'étais de ceux-là qui disaient on ne doit pas continuer à rester prisonnier de notre histoire de la région des Grands Lacs. Mais comme vous comprenez, la RDC est membre de la CIRGL, et bien la CIRGL, qui a sauvé aussi à un moment donné la RDC lorsque le M23 était dans la ville de Goma. Cette CIRGL a demandé au M23 de se retirer à 20 km. Je crois qu'il appartenait à ce moment-là à la RDC de devoir écouter le conseil de la CIRGL. Mais moi, sur le plan de mon analyse, je trouve que cette acceptation-là par rapport à l'appartenance à une région peut aujourd'hui être considérée comme facilitant tout mouvement insurrectionnel qui permettrait à chacun de croire qu'il peut toujours venir en aide de se faire ses aventures, alors qu'on venait de mettre fin à toutes les aventures du M23, qui n'était pas seul, parce que le M23, c'était une coquille vide de certains Congolais qui ne valaient rien. Tout le monde savait qui était derrière le M23. Et donc, je pense que la RDC devait s'émanciper à partir de ce moment-là pour offrir à la fin du monde l'image d'un pays qui est debout et qui doit s'affranchir.
Merci, professeur Arsène Mwaka. Vous allez réagir à ces points de vue de cet auditeur de Bounia.
Luc Malembe, depuis Bounia, province de l'Ituri. Une dénonciation faite par un gouverneur de province sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a des voix officielles et des ministres comme celui de l'intérieur ou de la défense qui sont mieux placés pour le faire. En outre, les allégations du gouverneur Paluku peinent à être vérifiées. La société civile locale de Ishasha et Bunagana ne confirme pas un quelconque mouvement suspect dans leur milieu. Je me dis que même si les sources du gouverneur sont fiables, le moment est très suspect pour qu'il soit pris au sérieux par l'opinion nationale.
Oui, professeur Arsène Mwaka.
Oui, bon, je ne voudrais pas dire à comme l'auditeur que puisque le gouverneur dénonce, donc c'est faux, et c'est de suite. J'ai l'avantage d'avoir compulsé les archives de cette province. Et depuis très longtemps, il y a un activisme des autorités locales, surtout les autorités frontalières, et des autorités provinciales. Rappelez-vous que quand la guerre de la FDL commençait, c'est un vice-gouverneur à son âme qui a eu à dénoncer l'envahissement du pays. Kinshasa tardait à annoncer que le pays était envahi et c'est un vice-gouverneur qui a dénoncé. Il y a plusieurs tractations entre les autorités des districts, par exemple des KCC, avec le gouverneur des provinces. Depuis les années 80, paix à son âme, Mwando Simba, si vous allez dans les archives, vous verrez qu'il y a eu plusieurs réunions et généralement ça se bute à une seule difficulté, la réponse rapide, franche, sincère de Kinshasa. Depuis les périodes Mobutu, depuis tous les autres régimes qui se sont succédés. Et donc, apparemment, c'est la même chose. Et donc, on ne va pas pleurer puisqu'un gouverneur a dénoncé. Nous saluons sa dénonciation. Ce qu'on demande, c'est que le gouvernement, qui a la responsabilité de protéger nos frontières, l'intégrité territoriale, qui a la responsabilité de protéger les territoires nationaux et les Congolais, puisse agir cette fois-là et que son comportement ne puisse pas nous pousser à nous interroger, comme ça a été le cas, je dis bien, depuis les années 80 jusqu'à ces jours, parce que c'est le même comportement.
Oui, et à votre avis, que faut-il pour décourager toute entreprise visant à déstabiliser la RDC qui se trouve actuellement, n'est-ce pas, à la croisée des chemins?
L'élément le plus essentiel, c'est l'organisation de l'armée. Une armée qui est capable de réagir à temps réel, plutôt que des dénonciations, nous dire que l'armée est entrée en action, et qu'il a conjuré le mal, et qu'on a même eu peut-être à pourchasser jusqu'à son dernier retranchement dans le pays où l'agresseur, d'où l'agresseur est venu. Et donc ça, c'est le mot clé. Mais au-delà de tout, on voudrait, et je renchéris pour dire que la région est couverte par des multitudes de milices nationales et étrangères. Et ça, c'est pas seulement la réalité du Nord Kivu, c'est tout le pays. D'où vient que 300 personnes, 200 personnes défient une armée? Ça vient d'où? Une armée qui a tout, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il y a réellement un réel problème de politique de défense. Et je voudrais juste interpeller le gouvernement pour dire que c'est sa responsabilité, en attendant qu'il puisse quitter.
Vous prenez, n'est-ce pas, l'organisation, n'est-ce pas, des FRDC. Nous savons que l'armée congolaise est en cours, n'est-ce pas, des réformes depuis plusieurs années, et une réforme qui n'aboutit toujours pas. Et apparemment, c'est un projet à long terme. Qu'est-ce faut-il faire pour le moment, parce que la menace, elle est imminente?
Oui, je pense qu'il faut une réponse proportionnée. Et ça ne demande ni de diplomatie, ni quoi que ce soit. Et donc, si réellement nous sommes envahis et qu'il y a des États qui s'organisent pour réarmer une fois de plus des forces qui ont été défaites, je crois que la même réponse qui a été donnée doit être ici donnée. Mais je ne voudrais pas ici qu'on puisse commencer à utiliser cet élément dans la politique, c'est-à-dire généralement, quand il y a une menace extérieure, la tendance c'est que le pays se fédère, on cesse les querelles internes, et ainsi de suite. Je ne voudrais pas que certains puissent nous faire croire que c'est à cause de nous faire taire sur l'illégalité, l'illégitimité de leur séjour à la tête de l'État qui fait que l'on assiste à ce qu'on assiste. Mais je voudrais dire, si le pays est envahi, il est de la responsabilité du gouvernement qui est là. Merci. De pouvoir agir.
Monsieur Moussavouli, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Mahomet de Bukavu, au sud Kivu. La fuite de ces ex-rebelles de M23 pour une guerre probable à l'est de la RDC n'est pas seulement imputable à l'Ouganda. Elle a d'ailleurs peiné à se réaliser. Je pense que d'une manière ou d'une autre, toutes les parties signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba sont responsables de cette action posée aujourd'hui par les ex-rebelles de M23 à l'Ouganda. Autant dire que cette fuite reste la conséquence évidente de l'incurie du laisser aller des signataires de cet accord par rapport à sa mise en œuvre effective pour en finir avec les hostilités à l'est de la RDC.
Monsieur Moussavouli?
Bon, j'assume mes propos. J'ai dit que dans ce drame qui se vive par la population dans l'est, il y a toujours une part de responsabilité partagée. On n'aurait jamais dû aller signer les accords de Nairobi à partir du moment où on les a signés, alors qu'on savait qui étaient les parrains du M23. On a donné à ces parrains-là le bâton pour continuer de nous battre derrière ces maquisards. Bon, maintenant qu'on en est là, je pense que le moment n'est pas à nous quereller entre nous, Congolais. Le moment est de nous préparer militairement à repousser ces attaques, parce que il y avait également des engagements pris par les pays de la région de ne pas servir de base arrière aux attaques contre le Congo. À partir du moment où il y a une attaque, bon, il y en a qui disent que ce n'est pas confirmé, il cherche à se calmer, tout ça, mais ça sent déjà que les parrains du M23 veulent à nouveau relancer des aventures militaires contre le Congo, eh bien, nous devons nous préparer en conséquence et tenir bon. Mais oui. Bon, c'est tout ce que je peux dire à ce stade.
Mais comme ça vous dit...
À la prochaine, il faut vraiment que les politiciens y réfléchissent à deux fois. On ne peut pas chaque fois signer n'importe quoi. Déjà, les accords de Goma qui ont ouvert la voie à la création du M23 étaient quelque chose d'absolument impensable. Comment est-ce que les Congolais ont pu signer ces accords?
Mais comme ça vous dit...
Ensuite, signer les accords en Nairobi.
Voilà, vous semblez dénoncer les accords qui ont été signés avec le M23. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, la RDC avait d'autres choix? Parce que vous avez vous-même affirmé dans cette émission que le M23 est une stratégie régionale et ce sont les puissances étrangères, n'est-ce pas, qui poussaient la RDC à pouvoir signer un document avec ces militaires. Et vous pensez qu'à ce moment-là, la RDC était en mesure de résister face à toutes les pressions, n'est-ce pas, des puissances étrangères qui l'a poussé à signer ces accords.
Cette question est délicate tout simplement parce que lorsque vous avez la responsabilité d'un peuple, vous réfléchissez à fonction de ce peuple. Si vous apposez votre signature sur un document, en sachant que ce document condamne votre peuple, vous condamnez votre peuple. Je pense que la responsabilité de... Je pense que l'État congolais, quelle que soit la situation dans laquelle il était, il devait refuser de signer cet accord-là.
Mais comme vous l'avez dit...
Vous refusez, parce que vous avez une responsabilité. Vous avez la responsabilité de votre peuple. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous signez un document qui condamne votre peuple à revivre les drames qu'il avait connus. Imaginez quand même tout ce que l'M23 fait subir à la population de l'Est du Congo.
Mais si vous
comment
vous avez...
subir une pluie de bombes qui a évandré des maisons d'habitation et tué des gens.
Mais si vous,
vous signez un document qui crée une situation qui doit se reproduire comme ça, vous n'êtes pas responsable.
Et M. Boniface, en un mot, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que mon regret est que la situation sécuritaire des provinces de l'Est n'ait pas été au cœur des préoccupations des différentes concertations à Kinshasa et même dans les organisations politiques comme en général et ailleurs.
Merci.
C'est dramatique. Il faut que il y a une sorte de réflexe, hein, de réflexe politique. Chaque fois que les politiciens se réunissent pour réfléchir sur la situation du pays, on met la question de la situation sécuritaire et la situation de nos populations de l'Est dans les discussions.
Merci, M. Moussavouli. Professeur Hassène Mouaka, votre conclusion?
Oui, je voudrais dire seulement que le pays est en crise et que malheureusement, il n'a ni besoin des opérations éternelles, des opérations militaires éternelles, ni besoin d'une espèce de domestication des milices ou d'élevage, entre guillemets, des milices. Le pays n'a pas besoin de forces qui viennent de l'extérieur pour être déstabilisé. Et donc, nous demandons au gouvernement de s'assumer tant qu'il est là.
Monsieur le gouverneur, un mot à Swahili, un message à Swahili pour rassurer, n'est-ce pas, les populations du Nord Kivu face à cette imminente attaque du M23.
Ningependa kuelezea wakaaji wote wa Nord Kivu ya kwamba tumesema ya kwamba kuna majambazi wa M23 wanataka kuja kutuvamia. Kusema hivyo si kusema sahihi wametupiga vita. Si kusema tumeshindwa. Majeshi yetu ya FRDC wako tayari kumpiga vita yoyote ambaye atamshindikiza, ambaye atafika katika nchi yetu ya Kongo. Iwe Ishasha, iwe Bunagana, iwe sehemu zote. Majeshi ya Kongo iko tayari kumpiga vita yoyote ambaye atasubutu kuja kuchezea katika nchi yote ya Kongo. Hiyo ndio message ambayo ya raia yote walale nayo, wakuwe nayo kila wakati na wasaidie jeshi kuwapatia habari kila wakati yoyote.
Merci, c'est la fin de cette émission et bonjour de programme sur Radio Kapi.